Voilà, alors troisième séquence de cette matinée. Cette matinée, vous avez compris qu'on a essayé vraiment de l'inscrire dans une réflexion prospective, de voir comment on pouvait agir, mieux comprendre les motivations des jeunes filles, mais aussi créer les conditions de leur accomplissement professionnel. Donc il nous semblait que dans cette troisième séquence, la question des perspectives s'inviter naturellement à cette matinée. Et pour ce faire, donc, nous aurons deux temps de réflexion qui sera soldé à nouveau par un temps d'échange donc, avec la salle. Et donc, je propose à Laetitia Vito de nous rejoindre, donc, qui va intervenir sur la place des femmes dans l'avenir du travail. Alors, Laetitia, vous êtes autrice, conférencière, notamment sur le futur du travail. Vous avez créé le podcast Nouveau Départ. Nouveau Départ, alors vraiment, je vous recommande ce podcast. Hein, je suis fan, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Vous avez contribué, vous contribuez à de nouveaux travaux avec une perspective, une expérience aussi internationale qui me semblait tout à fait intéressant à revaloriser et à remettre quand même dans ce contexte, parce que je me faisais quand même, chaque fois j'avais les réflexions sur les questions qui ont été proposées, partagées, également la mise en perspective internationale de l'intervention de Céline Masse ce matin, sur le fait que c'est vrai que nous sommes quand même dans un pays qui n'est pas hyper progressiste. Hein. On ne peut pas dire qu'on est le pire, mais on ne peut pas dire qu'on est le meilleur. Hein. Donc il y a quand même une dimension culturelle qui est aussi à comprendre, à décrypter. Et donc cette expérience aussi que vous avez au niveau international sur le futur du travail, sur le travail, mais aussi sur la place des femmes, je pense que ça sera véritablement, ça s'annonce passionnant. Voilà. À vous, Laetitia.
Bonjour à tous. Je suis ravie de prendre la parole après ces interventions passionnantes. Je pense que je ferai des clins d'œil à chacune d'entre elles, parfois pour prendre un peu le contre-pied ou en tout cas ou pour rendre hommage de manière différente. Merci pour cette belle introduction. Je vais parler essentiellement de culture, en effet. Donc, je ferai des petites références à l'international, parce que quand on parle d'avenir ou de passé, on chausse toujours des lunettes, et les lunettes, c'est les lunettes de sa culture, et donc c'est très important d'avoir ce sujet de la culture au premier plan. Mon sujet, c'est la place des femmes dans l'avenir du travail. Mais avant de sortir ma boule de cristal et de vous dire de quoi le futur sera fait, ce que je suis, entre parenthèses, évidemment, bien incapable de faire parce que personne n'est capable de le faire, je vais vous partager quelques réflexions préliminaires sur la manière dont on regarde le passé et l'avenir. Quand on regarde le passé et l'avenir, on a toujours un énorme biais qui est celui des lunettes que l'on chausse, c'est-à-dire qu'on parle avec le point de vue de ce que l'on connaît. Et donc, c'est très vrai pour l'histoire et c'est très vrai pour l'avenir. Par exemple, la prospective aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel il y a énormément d'hommes, dans lequel il y a énormément d'Européens. Ils chaussent leurs lunettes et puis ils vous décrivent 2001, l'Odyssée de l'espace, Terminator, que sais-je, un monde avec leurs yeux à eux. Par exemple, quand on a demandé dans les années 1960 à des prospectivistes, des hommes, d'imaginer à quoi ressemblerait le travail de l'an 2000. Alors, ils ont mis leurs lunettes, ils ont réfléchi le travail de l'an 2000, et ils ont été très forts sur imaginer tous les trucs technologiques, parce que la plupart étaient déjà très, très intéressés par ces sujets-là. Donc, ils ont imaginé les fax, extraordinaire, parce que les fax, c'était effectivement quand même quelque chose qu'on utilisait à peu près autour de l'an 2000, dans les années 90 en tout cas. Ils ont imaginé quelque chose qui ressemble un peu à Internet. Ils ont imaginé les ordinateurs portables, ce qui, du point de vue des années 60, est extraordinaire, parce que imaginez les salles informatiques qu'on avait dans les années 60, imaginez qu'on pourrait avoir quelque chose qu'on peut porter, c'est extraordinaire. Ils ont imaginé des open space ouverts, voilà, tout un monde du travail qui n'était pas si loin de ce qu'allaient être les grandes entreprises des années 2000. Sauf que dans leur bureau de l'an 2000, il n'y avait pas de femmes et que des hommes. Parce qu'évidemment, vu des années 60, c'était quelque chose qu'ils étaient incapables de voir. Ils avaient leur angle mort énorme, incapables de voir ces changements culturels profonds, des aspects démographiques, incapables de voir autrement qu'avec leurs yeux d'hommes, souvent privilégiés, à qui on demandait d'imaginer le futur. Eh bien, c'est exactement pareil pour le passé. Quand on regarde l'histoire, on a chaussé nos lunettes et ce qu'on dit aujourd'hui sur l'histoire et sur l'histoire du travail des femmes est largement faux. En fait, on s'est nourri de stéréotypes sur le passé. Je vais vous donner un exemple que je vais développer un petit peu. Quand au XXe siècle, des historiens, des anthropologues ont déterré ou ont découvert des corps, enfin des squelettes. Des squelettes, si les sépultures étaient un peu luxueuses, qu'il y avait des armes avec, qu'on voyait sur les os des traces d'armes, enfin des traces de blessures par armes, on en a déduit immédiatement que ces squelettes ne pouvaient être que des squelettes d'hommes, de guerriers. Et ce n'est que très longtemps après, c'est-à-dire au XXIe siècle, d'ailleurs souvent avec des chercheuses et pas seulement des chercheurs, qu'on a fait des analyses ADN et qu'on a découvert que dans ces guerriers, même les vikings, il y avait des femmes. Et que donc dans le passé, il y avait des femmes qui participaient à la guerre, de même qu'il y a des femmes qui participaient à la chasse. Et que donc ce stéréotype-là très ancré qui dit que les hommes chassent et les femmes font la cueillette, que les hommes sont violents pendant que les femmes sont à la grotte à s'occuper des petits, les hommes ils chassent et puis quand ils reviennent ils tirent leur femme par les cheveux, et que donc c'est fondamentalement naturel et que cette division des tâches elle existe depuis le paléolithique. Non, pas du tout, c'est faux. Les femmes chassaient, les hommes cueillaient, ils étaient tous nomades, en tout cas pendant pas mal de siècles ou de milliers d'années, et on est bien incapable de dire que c'est quelque chose de tout à fait linéaire et qu'il y a quoi que ce soit de naturel là-dedans. Et donc qu'il s'agisse de regarder l'avenir ou de regarder le passé, on est toujours là avec nos lunettes et avec notre culture, et en fait la seule chose qu'on soit capable de dire, c'est qu'on n'est pas capable de dire à quoi ressemblera l'avenir, de même qu'on est encore très mal armé pour comprendre toute la diversité du passé et de ce qu'était cette riche histoire du travail dans laquelle les femmes ont joué un rôle important. Le progrès, il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire du tout. Quand on dit qu'il faudra attendre 131 ans pour atteindre l'égalité, alors c'est une figure de style, c'est évidemment, c'est plus pour dire c'est lent. Mais en fait, si ça se trouve, dans 131 ans, on n'y sera pas du tout, parce qu'il n'y a pas de linéarité, parce qu'il y a des hauts, des bas, des sauts, des ruptures, et qu'on ne peut absolument pas, modéliser une fonction mathématique pour dire voilà où on en sera dans tant d'années. Ça n'est pas possible. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que même au jour d'aujourd'hui, et Céline Masse en a beaucoup parlé, on a une telle diversité de situations et de conditions qui fait que finalement, qu'est-ce que le présent ? On n'est pas tellement bien armé pour le dire non plus, parce qu'on a à la fois la situation des femmes en Suède et puis la situation des femmes en Afghanistan. Ça n'a pas grand-chose à voir. Donc qu'est-ce que le présent ? Je mets de côté ces petites remarques préliminaires là, pour en venir dans le cœur du sujet, qui va être le fil de conducteur de ma présentation à propos du travail des femmes, de où on vient et où on va. On le retrouve, ce fil conducteur, dans la double définition du mot travail. Quand vous regardez travail dans un dictionnaire, vous avez deux définitions. Première définition, période de l'accouchement pendant laquelle se produisent les contractions. Deuxième définition, activité humaine coordonnée en vue de produire quelque chose. Alors parfois on rajoute quelque chose d'utile, moi je pense que ça peut être quelque chose d'inutile aussi, ça n'en fait pas moins du travail, mais en vue de produire quelque chose. Donc on retrouve dans la définition, dans cette dualité, les deux aspects qu'on a caractérisés un peu par la suite par les notions de production et de reproduction. Donc, production, c'est ajouter quelque chose de nouveau, que ce soit un bien ou un service qui n'existait pas et que l'on a fabriqué, qu'on a produit. Et puis reproduction, la reproduction de la force de travail concerne à la fois la reproduction de la force de travail future, faire des enfants, s'en occuper, les élever, les faire grandir, les soigner, et puis la force de travail présente, prendre soin de tout ce qui permet de reproduire sa force de travail. Donc entretenir le foyer dans lequel on va se reposer, faire des bons petits plats pour être en forme au travail demain, etc. etc. Tout ça, c'est cet entretien hein, de la force de travail, la reproduction. Et cette dichotomie, elle est évidemment très imparfaite parce que il y a énormément d'éléments de la reproduction qui étaient non marchands, non rémunérés, qui au XXe siècle, pour une partie de ces activités, ont fait exploser un secteur des services qui est devenu marchand, mais toujours en concurrence avec du non marchand. Donc en fait, on a une espèce de porosité entre tous les concepts qui ajoute énorme, qui est très très compliqué parce que on ne peut pas appréhender le travail des femmes, qu'il soit productif ou reproductif, sans appréhender cette porosité énorme entre ce qui est marchand et ce qui est non marchand. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui dans le monde, à peu près 2/3 du travail gratuit est effectué par des femmes. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le travail gratuit ? Bon, alors, le travail gratuit, ça va être, c'est très controversé, parce que si j'inclus dedans le fait de garder des enfants par amour ou de s'occuper d'un père âgé en fin de vie, vous allez me dire, mais enfin, ce n'est pas du travail, c'est de l'amour. C'est vrai. C'est vrai, mais cet amour que vous donnez et que vous donnez sous forme de temps vous empêche de gagner de l'argent par ailleurs avec une autre activité. Et ça, c'est vraiment un phénomène absolument massif à l'échelle planétaire, c'est que tout ce temps qui est donné par amour est un temps qui n'est pas consacré à gagner de l'argent et qui explique principalement les inégalités de richesse entre les femmes et les hommes. Et pendant ce temps, 1/3 seulement du travail rémunéré est effectué par des femmes dans le monde. 2/3, 1/3, c'est vraiment à la louche, hein, évidemment. C'est une espèce de moyenne, donc c'est une fiction, une moyenne, mais ça donne un ordre d'idée pour se repérer un peu dans quoi on parle et pour comprendre aussi l'effet de l'un sur l'autre, l'effet de ce qui est fait par amour, si on ne veut pas l'appeler travail gratuit, appelons-le autrement, et puis ce qui est fait pour l'argent. Et cette opposition entre argent et amour, on la retrouve constamment. On la retrouve ensuite dans des métiers qui correspondent, même quand ils sont dans la sphère marchande, aux activités dites de reproduction, entre mille guillemets, le fait de prendre soin des enfants, les métiers de la petite enfance, le soin, la santé, l'enseignement, le soin aux personnes âgées, etc., le social, tout ce qui est prendre soin de la communauté, prendre soin d'un lieu, nettoyer, laver, toutes ces choses qui entretiennent, qui reproduisent, qui ne sont pas dans le fait d'ajouter quelque chose de neuf, mais le fait de relier entre eux des choses qui existent déjà, qui sont déjà là et dont on prend soin. Donc c'est vraiment une notion très très large du mot soin, mais j'en ai oublié le début de ma phrase pour le coup. Tout ça pour dire que cette dichotomie-là, elle est absolument partout parce que la non-valorisation du soin, qui quand il est dans la sphère non marchande n'est absolument pas comptabilisé, eh bien, on la retrouve dans la sphère marchande. Donc, en fait, elle est absolument partout et elle se retrouve dans toutes les dimensions du travail. Elle se retrouve dans la non-mixité. On en a beaucoup parlé ce matin de la non-mixité. En fait, il faut quand même rappeler que plus de la moitié des actifs travaillent dans des métiers non mixtes. Les métiers non mixtes sont des métiers dans lesquels il y a plus de 60% de l'un des deux sexes. C'est-à-dire que c'est une majorité des gens. Que vous soyez dans le soin, dans le social, dans la santé, que vous soyez dans l'enseignement ou bien salarié dans une EHPAD, vous êtes dans des métiers dans lesquels on a en général 85% de femmes, ça peut aller jusqu'à 90, 95, voire plus, hein, dans les assistantes maternelles, je crois qu'on est à 96 ou 97% de femmes, ou 98%, enfin voilà. Chez les infirmières, c'est un tout petit peu moins, parce que dans les libérales, il y a un tout petit peu plus d'hommes que les non, que celles qui ne sont pas dans le statut de libéral. Donc on a des métiers qui sont féminins de manière absolument écrasante, et puis un spectre un peu plus large de métiers dits masculins. Quand je dis masculin et féminin, il n'y a rien d'essentialiste là-dedans. Hein. Vous l'avez compris avec mon exemple des hommes et des femmes préhistoriques. Il n'y a rien de... c'est pas dans nos gènes, hein, c'est simplement des métiers non mixtes tels qu'ils sont aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du monde. Donc c'est ce spectre des métiers dits masculins qu'on retrouve dans la construction, bâtiment, l'énergie, l'informatique, l'intelligence artificielle, pratiquement tous les postes d'ingénieurs, mais aussi des métiers de la logistique, du transport, etc. Donc il n'y a pas que des métiers privilégiés là-dedans. Mais ces métiers-là, ce spectre, ils sont plus nombreux, ces métiers, que les métiers féminins. Les métiers masculins sont plus nombreux. Donc ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas de symétrie, absolument. Et puis, il y a d'autant moins de symétrie que les femmes qui sont minoritaires dans des métiers masculins sont en général pas bien traitées. Hein, il y a ce fossé de l'autorité, c'est-à-dire qu'on ne leur prête pas l'autorité professionnelle. On les suppose incompétentes jusqu'à preuve du contraire. Elles sont interrompues davantage. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Elles sont interrompues au travail. Elles sont toujours moins rémunérées, même pour le même travail. Elles sont toujours harcelées, hélas, très souvent, décrédibilisées. Leur travail est saboté. Leur parole n'est pas entendue. On ne leur donne pas la place. Donc, j'en dresse un tableau très, très noir. C'est évidemment plus contrasté. En gros, quand vous êtes une femme en minorité dans un monde d'hommes, vous n'êtes pas bien traitée. En revanche, c'est là où il n'y a pas de symétrie non plus, quand vous êtes un homme en minorité dans un métier féminin, c'est la fête. Vous êtes super bien traité, vous êtes chouchouté. Je ne sais pas si les hommes parmi vous, vous êtes déjà allés dans un cours de gym avec que des femmes. C'est génial. D'abord, c'est génial parce qu'on peut draguer tout le monde. On vous suppose spontanément que vous êtes un allié, donc vous êtes encensé, adulé. Hein, c'est un peu comme un homme qui change une couche à qui on dit bravo, formidable, voilà un homme bien. Donc vous êtes très bien traité. Là aussi, dans le monde du travail, c'est absolument statistiquement prouvé, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur de verre. C'est le pendant asymétrique du plafond de verre. C'est-à-dire l'ascenseur de verre, c'est-à-dire que vous allez être promu davantage, mieux rémunéré, accéder à des postes de responsabilité plus rapidement, et ça se retrouve dans tous les métiers. Prenez l'enseignement, les hommes, alors que c'est pour une majorité des fonctionnaires, sont mieux payés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins à temps partiel, ils font plus d'heures supplémentaires, et puis ils sont plus nombreux dans les postes. C'est-à-dire plus les enfants sont grands, plus on suppose que c'est l'élite en termes d'enseignement. Au lieu d'inverser les choses, se dire que les choses sont plus importantes pour les petits-enfants, on fait l'inverse. C'est-à-dire que plus vous montez, par exemple, lycée, c'est plus valorisé que collège, classe prépa, c'est plus valorisé que le lycée, l'université, c'est pas forcément plus valorisé que la classe prépa, non. Mais en tout cas, c'est plus vous montez, plus c'est valorisé, et puis certaines disciplines sont beaucoup mieux rémunérées que d'autres pour tout un tas de raisons un peu compliquées, mais par exemple quand vous êtes vous devez savoir ça très bien, mais quand vous êtes prof de maths en prépa, vous avez beaucoup plus d'heures, donc les heures sup ça paye beaucoup plus et vous faites beaucoup plus d'heures de colle, et donc un prof de maths en prépa gagne à peu près deux fois plus qu'un prof de lettres en prépa, et un prof de maths en prépa en moyenne plus souvent un homme qu'une femme. Voilà, c'est des choses un peu inconnues, un peu méconnues, hein. Et après il n'y a pas de mal à bien payer un prof de maths, c'est pas le problème. Mais il se trouve que tout ça mis bout à bout, tous ces sujets-là, font que dans les métiers féminins, les hommes sont mieux rémunérés, plus valorisés, etc. Donc vraiment pas de symétrie sur cet aspect des choses. Je vais en revenir un tout petit peu à mon histoire de production et reproduction. Pour vous, et je vous inquiétez pas, je vais en venir à l'avenir dans un instant. Au moment de la révolution industrielle, on a vraiment séparé les choses de manière très binaire, en séparant des espaces. On a cantonné les femmes à l'espace domestique avec la création de l'usine. Et on a supposé que tout ce qui était de l'ordre de la production à l'usine devait couvrir le travail de reproduction à domicile. Et cette idée de couverture, elle nous a poursuivis pendant très longtemps et elle continue de nous poursuivre. C'est qu'on suppose toujours que le travail de production, qui repose sur le travail de reproduction, est censé être suffisamment bien rémunéré pour inclure tout ça en même temps. Le gros problème, évidemment, c'est qu'il y avait déjà des femmes qui travaillaient dans la production. En fait, il y avait des femmes à l'usine au moment de la révolution industrielle. Elles étaient moins rémunérées, elles étaient moins protégées, etc. Mais il y avait des femmes à l'usine. Et puis, il y avait aussi de la production à domicile. Il y avait tout un système qu'on appelait, en anglais, le putting out system. On amenait de la matière première dans les maisons pour fabriquer des textiles, etc. Et on allait chercher les produits finis à domicile. Donc, la sphère domestique a toujours été une sphère de production et pas uniquement de reproduction. Donc en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Et ce mythe de la couverture de la production, ou de la couverture de la reproduction par la production, nous poursuit encore très longtemps. Je vais vous raconter une petite histoire, qui est une petite histoire de la science économique qui a contribué à l'invisibilisation de la production et de la reproduction, c'est-à-dire de l'ensemble du travail des femmes. Cette histoire, c'est celle d'Adam Smith et sa maman. Vous savez qui est Adam Smith ? On le reconnaît aujourd'hui comme étant plus ou moins le premier économiste de l'histoire. En réalité, il était plus que ça, puisqu'il était aussi philosophe. Il était voilà, un homme de plein de disciplines, comme on pouvait l'être à l'époque des Lumières. Adam Smith, on lui doit beaucoup de concepts. La main invisible du marché, l'idée qu'en poursuivant son intérêt égoïste, en fait, on contribue à faire fonctionner le marché, donc on contribue à la richesse général, La richesse des nations, c'est le titre de son ouvrage le plus célèbre de 1776, où il théorise la division du travail qui allait être mise en place dans le monde industriel du siècle suivant. Donc un grand penseur de la division du travail, un grand penseur de ce que c'est que de ce qu'allait être la science économique. Et Adam Smith, il a cette phrase absolument géniale où il parle du miracle du dîner. Il dit « Oh, c'est formidable, grâce à l'égoïsme du boucher, grâce à l'égoïsme du maraîcher, et l'égoïsme du brasseur et l'égoïsme du meunier, j'ai le miracle de mon dîner. » Il n'a pas du tout vu qu'il y a quelqu'un, c'est sa mère, parce que c'est un vieux garçon, il vit avec sa mère, qui a fait les courses, qui a cuit les aliments, qui lui a mis la table, qui a fait tout le travail de préparer le dîner, ensuite de débarrasser la table, de tout nettoyer, etc. Et ça, il ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'il ne voit le marché qui permet à ces aliments de se retrouver sur la table, mais pas ce qui s'est passé à l'intérieur du foyer, qui en termes de quantité de travail est absolument considérable et qui lui a permis d'avoir un bon dîner et de mettre les pieds sous la table. Et ça a poursuivi la science économique pendant très longtemps, c'est-à-dire cette idée que ce qui n'est pas marchand n'est pas de l'économie, alors qu'en fait c'est de l'économie. La preuve, c'est que dès que ça devient marchand, tout d'un coup on est capable d'en mesurer la valeur. Et puis surtout que cette activité des femmes, ce qui leur prend du temps en fait, n'est pas considéré comme du travail. Et je retrouve encore beaucoup de débats sur ce que, quand j'utilise le mot travail, je me dis mais non, mais ça c'est pas du travail. Ça se discute, on peut en discuter, mais le fait est que ça a un impact sur le travail absolument très profond. Quand ces activités, qu'elles soient rémunérées ou pas, ne sont pas assurées, quand... Appelons-les les essentiels, parce que c'était le terme à la mode pendant la période de pandémie qu'on a traversée. Quand ce travail n'est pas fait, eh bien aucun autre travail n'est possible. Le travail de la spécialiste d'intelligence artificielle n'est pas possible quand le travail des personnes qui s'occupent de nos infrastructures n'est pas fait. Quand, si un jour vous avez des enfants ou quelqu'un comme vous a des enfants, quand vos enfants ne sont pas gardés, tout d'un coup, vous ne pouvez pas aller travailler. Quand vous n'êtes pas soigné parce que vous avez une maladie grave, le travail s'arrête aussi. Toutes ces choses s'arrêtent quand ces infrastructures essentielles ne sont pas assurées, ne sont pas là. Et donc, le parler de travail, et j'ai beaucoup aimé, c'est très important, j'en suis convaincue de dire qu'il faut plus de femmes d'ingénieurs, qu'il faut plus de femmes pour façonner le monde de demain et prendre les décisions qui sont les décisions qui vont façonner ce monde-là. Mais en attendant, toute la base qui est celle-là, elle est indispensable et on l'a vu pendant les confinements, quand les écoles ferment, quand les crèches ferment, etc., tout s'arrête. Aux États-Unis, il y a 4 millions de comptables, ingénieurs, de femmes de toute profession qui sont rentrées à la maison pendant les confinements parce qu'il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de crèche, il n'y avait plus rien. Et ça nous pend au nez toujours. Aujourd'hui, la question du soin, et là j'en arrive tout de suite à l'avenir du travail, est la question principale de l'avenir du travail, tout métier confondu, tout individu confondu. Nous sommes dans une société qui vieillit. Nous savons déjà quels seront les besoins, nous savons déjà aujourd'hui quels sont les besoins de recrutement dans tous ces métiers essentiels pour s'occuper de nos aînés, pour s'occuper des personnes dépendantes, des personnes handicapées, des enfants, des vieux, des jeunes, etc. On le sait déjà. On manque aujourd'hui de centaines de milliers de salariés travaillant dans les EHPAD, dans les écoles, dans les hôpitaux, à l'échelle de l'Union européenne. Dès aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui manquent à l'appel. Et vu les évolutions de notre démographie, en fait, ce chiffre ne va faire qu'augmenter. Donc certes, il y a demain des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas et il y aura peut-être davantage besoin de personnes formées dans les sciences. Je ne suis pas sûre que ça concerne tellement d'individus en termes de quantité d'emplois. C'est des emplois très importants, très importants. Il faut qu'il y ait des femmes, ça, oui. Mais ce n'est pas la majorité du travail. Quand on entend des gens qui disent 50% des emplois de demain, on ne les connaît pas encore. Ou des métiers, c'est des métiers. 50% des métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Peut-être, si on fait la liste de tous les métiers qui existent. Mais vous savez, il y a des métiers où il y a 10 personnes, des métiers où il y a 100 personnes, il y a des métiers où il y a 1 million de personnes. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'essentiel des emplois de demain, on les connaît déjà. On les connaît déjà. Et on ne fait rien pour. Et on ne fait rien pour. Et quand on ne fait rien pour recruter des infirmières, valoriser l'enseignement, valoriser le travail auprès des personnes âgées dans des structures collectives ou à domicile, on va se retrouver demain avec l'impossibilité d'exercer d'autres formes de travail parce qu'on va être aspiré à domicile par le travail gratuit qui est celui de prendre soin de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas d'EHPAD, et si vous n'avez pas d'EHPAD dans lequel vous pouvez faire confiance, vous allez vous arrêter de travailler. Demain, c'est-à-dire avant 2030, une personne, un actif sur 4 sera aidant. D'ici 2040, ça pourrait être un actif sur 3. Si on ajoute à ça les gens qui sont encore parents, parce qu'on a encore des enfants, pas beaucoup moins et de moins en moins, mais il y en a encore, ben vous avez énormément d'individus qui sont, pour la majorité des femmes, en sandwich entre les deux et qui sont aspirés dans l'inactivité, entre mille guillemets, hein, le non-travail. Vous savez ce que je pense de cette utilisation du mot travail, mais qui vont s'arrêter de gagner de l'argent et tomber dans une trappe à inactivité. Aujourd'hui, parmi les personnes plus âgées, vous avez une grande quantité des 55-64 ans et surtout des 60-64, pour tout un tas de raisons autres que celles-là, mais aussi pour cette raison-là, parce qu'ils sont aidants, parce qu'elles sont aidantes, ne peuvent plus travailler. Donc c'est l'enjeu absolument central de l'avenir du travail. L'avenir du travail, il est fait de soins. D'abord parce qu'il concerne énormément d'individus et qu'il va falloir recruter des hommes dans ces métiers-là. Plus il y aura d'hommes dans ces métiers-là, plus ces métiers seront valorisés et permettront de tirer toute la société vers le haut, sachant l'importance de ces métiers-là. Et plus toutes les autres activités créatives, intellectuelles et autres pourront être soutenu par cette base qui le permet. En quelque sorte, voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les essentiels, c'est parce que sans eux, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de production. J'ai un petit peu dépassé mon temps, mais je vais en arriver à quelques phrases de conclusion, pourquoi je suis persuadée que les femmes ont quand même une belle carte à jouer dans cet avenir et que cet avenir du travail, leur place pourrait y être plus grande. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, je vous ai parlé de vieillissement et d'aidance, c'est que les métiers dans lesquels elles sont aujourd'hui très présentes sont des métiers d'avenir. Et donc, les investir n'est pas forcément un mauvais calcul. Et qu'attirer les hommes dans le soin, voilà, c'est vraiment l'enjeu principal pour aider collectivement à leur valorisation et pour soutenir tout le reste. Deuxième conséquence du vieillissement, c'est qu'on est dans des carrières qui sont beaucoup plus longues. On travaille beaucoup, beaucoup plus longtemps. Le grand enjeu, ça va être de rendre ce travail plus soutenable, de manière à l'exercer plus longtemps sans être usé physiquement, mentalement, psychiquement. Mais dans ces carrières longues, les femmes ont une longueur d'avance, parce que ça fait belle lurette qu'elles ne sont pas dans le modèle de la vie en trois phases. Je me forme, je travaille, je pars à la retraite. Ça fait belle lurette qu'elles se reconvertissent, qu'après avoir vécu un plafond de verre ou du harcèlement, elles changent de métier, qu'au retour d'un congé maternité, elles se prennent des claques dans la figure et qu'elles décident que c'en est fini, elles doivent changer d'emploi et faire autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les sciences, elles partent souvent dès qu'elles ont des enfants. Quand elles sont développeurs informatiques, on a enfin réussi à recruter une femme développeuse et elle part au bout de quelques années, beaucoup plus vite que ses homologues masculins. Misère, elle ne reste pas. Les carrières longues, elles savent faire la vie multiphase, les reconversions, les transitions professionnelles. Elles ont une longueur d'avance. Et c'est vraiment la chose qu'il va falloir qu'on apprenne à cultiver, naviguer dans un monde d'incertitude dans lequel il va falloir opérer des transitions professionnelles nombreuses et gérer des actifs dans tous les sens du terme, y compris financiers, pendant une longue période. Et ces vies de transition, les femmes, elles savent déjà très bien faire. On peut s'inspirer d'elles. Après, j'ai d'autres raisons d'espérer. C'est que moi, je suis assez convaincue qu'en fait, beaucoup d'activités aujourd'hui très valorisées vont quand même être largement automatisées. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on dit qu'il faudrait beaucoup plus de gens formés à certains métiers, parce que c'est des métiers dans lesquels on va justement pas tellement recruter. On a cru d'ailleurs en l'an 2000 qu'on allait recruter des centaines de milliers de gens dans les métiers du numérique. En fait, non, c'est pas tant d'emplois que ça. Enfin, il y en a, hein, et bien sûr, on en a besoin, mais pas tant d'emplois que ça. Et c'est pareil, je pense que les évolutions des métiers et des tâches qui sont exercées à l'intérieur de chacun des métiers vont faire que la notion de soin va devenir plus importante. Je vous donne un exemple très basique, mais si vous pouvez automatiser votre PowerPoint et que les calculs les plus complexes sont faits par la machine, ce qui reste, c'est la relation commerciale, par exemple, que vous allez cultiver. Et donc, l'activité de vente, par exemple, c'est une activité où, fondamentalement, le plus important, c'est de capter l'attention, de donner de l'attention, et puis de cultiver une relation de confiance avec un individu, qui est une relation de service, fondamentalement. La bonne vente, pas la mauvaise, pas celle où on vous harcèle. Donc, ces compétences qui aujourd'hui, qu'on appelle soft aujourd'hui, qui ne sont pas forcément très valorisées, en fait, elles sont extrêmement importantes et elles le seront davantage. Et là aussi, aucune essentialisation là-dedans, mais on nous a socialisés et éduqués pour développer ces compétences-là davantage. Donc, les femmes sont bien positionnées pour faire levier de toutes ces compétences dites soft. Et puis pour finir, je pense qu'avec le réchauffement climatique, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et là aussi l'impact du réchauffement climatique sur l'avenir du travail est probablement considérable, bien au-delà des seuls nouveaux métiers liés à la transition énergétique. On est dans l'idée qu'il va falloir complètement réinventer nos manières de travailler. Pas seulement quand on est dans le bâtiment et qu'il fait 45 degrés et qu'on ne peut plus que travailler la nuit, mais aussi parce qu'il va falloir en fait, rendre plus soutenables des modalités de travail quand rien que se rendre au travail par 45 degrés ou 50 degrés, c'est déjà... vous arrivez épuisé en sueur et en nage, c'est déjà plus possible. Les Allemands, j'habite en Allemagne, j'ai oublié de dire ça, on pourrait vous en parler des femmes au travail en Allemagne. Les Allemands ont fait des blagues l'été dernier, parce qu'il a fait très chaud l'été dernier, sur le fait que la sieste des Méditerranéens, qu'ils avaient longtemps méprisée, était quand même peut-être une bonne idée quand il fait très chaud. C'est pour vous donner, par l'anecdote, un exemple des manières de complètement repenser l'organisation de la journée, du temps, du rapport au temps. Ce rapport au temps, il est en train de se transformer profondément. Ce n'est pas un hasard si on reparle aujourd'hui de réduction du temps de travail. C'est que les effets combinés du réchauffement du climat et du vieillissement de la population, dans un contexte où les femmes ont besoin et doivent travailler aussi pour être rémunérées, et pas seulement travailler par amour sans gagner de l'argent, font que la définition du travail ne peut plus être basée sur l'idée qu'il faut sacrifier tout son temps à son travail et être présent, comme vous le disiez, jusqu'à 20 heures et ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants, parce que ça exclut de fait toutes les personnes qui sont dans le care, qui ont des enfants, qui ont des parents dont ils s'occupent. Et ça, c'est en train de changer avec le télétravail, avec tout un tas de choses. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur le fait qu'il y a quand même des modalités ou des manières de penser le travail qui sont beaucoup plus favorables aujourd'hui à une place des femmes plus grande. Je le dis avec beaucoup de prudence, parce que je n'ai pas de boule de cristal et parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent aussi nous inquiéter, mais cet avenir du travail-là, qui est un avenir plein d'amour et plein d'espoir, je pense que les femmes auront, et les hommes avec elles, une grande place à y jouer.
Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Je vais proposer à Camille Bedin d'intervenir à présent, à la fois par une mise en perspective, mais également peut-être aussi nous donner cette dimension un peu prospective, de perspective à venir. Camille, alors peut-être vous restez là ou comme vous voulez, parce qu'après, de toute façon, il y aura un temps de, voilà, de discussion à nouveau. On lance la vidéo tout de suite ?
Oui, alors voilà. En introduction de cette vidéo, si vous le permettez, Karine, effectivement, mon rôle est un peu difficile, puisque c'est à la fois de dresser des perspectives qui viennent d'être en grande partie données et dont, effectivement, on a parlé toute la matinée. Donc, je vais essayer de rappeler, de réancrer ce que nous pouvons faire, puisque c'est ça qui peut être intéressant, ce que nous pouvons faire à notre échelle sur ce sujet de l'accomplissement des jeunes filles pour aujourd'hui et pour le monde de demain. Et juste pour illustrer ça, le conseil départemental a donc engagé l'année dernière, comme le rappelait le président tout à l'heure, une politique pluriannuelle sur différents axes en faveur d'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. J'y reviendrai, évidemment. Et dans ces actions-là, le pan éducatif, l'axe éducatif est évidemment majeur. Nous avons lancé depuis juin dernier des ateliers qui s'appellent des Curious Labs. C'est déjà une politique, déjà un format utilisé par le conseil départemental. C'est un format de design thinking, d'ateliers collaboratifs. Et que là, nous avons donc dédié à ce sujet de l'égalité filles-garçons en faisant venir des collégiens. Il y en a 900 donc, qui vont passer à travers ces ateliers sur l'année 2023-2024 et qui réfléchissent au sujet de l'égalité filles-garçons. Je trouve que c'est intéressant pour vous donner un petit éclairage de ce qu'on peut faire très concrètement et massivement sur le territoire avec cette vidéo. Cette année 2023-2024, ces ateliers de Curious Lab sont centrés sur l'égalité hommes-femmes. Pendant toute la matinée d'ateliers, des collégiens, des collégiennes vont réfléchir à déconstruire des stéréotypes qu'on peut se faire sur l'égalité femmes-hommes, sur les métiers féminins, les métiers masculins, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça existe réellement ? Il y a 500 collégiens qui vont passer à travers ce Curious Lab. Et pour ces 500 collégiens, le message que nous voulons faire passer, c'est tout est possible. Ne vous mettez pas de plafond de verre. Sortez des préjugés ou des clichés ou des idées reçues que nous pouvons avoir. L'objectif, c'est qu'on donne envie aux filles d'aller vers des métiers vers lesquels elles ne s'orientent pas suffisamment. Et à l'inverse, d'expliquer aussi aux jeunes garçons qu'ils peuvent aller vers les métiers du soin, les métiers du care, les métiers de l'éducation, les métiers de l'enseignement, des métiers qui sont aujourd'hui extrêmement féminins et pour lesquels on a besoin d'hommes.
Pour mes élèves, participer à une journée comme aujourd'hui, ça permet de commencer ce travail un peu de déconstruction des stéréotypes garçons-filles. Ils ne sont pas encore dans des postures toutes faites. Et ils ont une ouverture d'esprit qui leur permet d'être réceptifs justement à des nouveaux messages, à des nouvelles idées. Je crois beaucoup à la pédagogie de projet et donc je pense que je vais pouvoir reprendre en classe les thématiques, échanger avec eux sur ce qu'ils ont vécu ce matin, prolonger cette réflexion dans le cadre des cours soit de la vie de classe, soit des cours d'EMC.
Un dispositif comme le Curious Lab est très intéressant, notamment pour déconstruire les stéréotypes que crée la société. En interne, au collège, on va leur en parler de ce qu'est l'égalité, ce que c'est que l'orientation. Mais c'est aussi important qu'ils entendent ces mêmes propos de personnes différentes, des personnes qui ne connaissent pas, des élèves d'un autre collège. Ils discutent de beaucoup de choses. Il y a des échanges autour de l'orientation, autour des stéréotypes, autour de l'égalité. Des échanges entre eux sur leur famille, sur eux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est important pour qu'ils puissent se construire et avancer.
Alors, merci pour le passage à la diffusion de la vidéo, Karine, je pense que c'est bien. Je profite pour remercier les équipes Christelle Dupré, qui a été citée tout à l'heure, et toute l'équipe qui travaille au département sur ces sujets. Quelques perspectives, et essayer aussi de vous dire ce que moi je retiens de ce qu'on s'est dit ce matin et qui pourrait encore susciter des questions et des pistes de réflexion à l'avenir. Mais beaucoup de choses ont été dites. Au plan de l'action publique, je pense qu'on peut évoquer donc un certain nombre de pistes. La première, évidemment, elle se situe autour de l'éducation. Ça a été fait mention tout le temps. On a eu des exemples très concrets de ça. Et c'est la vocation qu'on s'est donc lancée prioritairement.
De sensibiliser aux stéréotypes de genre, bien sûr. Donc qu'on puisse contribuer, que ce soit l'éducation nationale, les associations, les collectivités, il y a des élus municipales parmi nous, toutes les collectivités, à l'action éducative, en proposant sur les temps scolaires ou périscolaires des programmes d'éducation à l'égalité des genres. Donc ce type d'atelier en fait partie, les forums des métiers en font partie. Dès le plus jeune âge, travailler sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Et ça me permet de rebondir sur un point très important qui est pourquoi finalement on se concentre ce matin sur les filles, d'une part. On aurait pu faire quelque chose sur la mixité filles-garçons, sur la mixité aussi des métiers garçons vers, dits masculins, vers, enfin, des garçons qui pourraient travailler dans des métiers dits féminins. On s'est concentré sur les filles, pourquoi ? Première, et sur les métiers tech, autre explication numérique, je voudrais y revenir, parce qu'il y a peut-être quand même un sujet qui caractérise les filles et sur lequel on est toutes d'accord, c'est le sujet de la confiance en soi. Vous savez, les fameuses remarques d'élèves studieuses, sérieuses, appliquées, travailleuses, qui travaillent plus que les garçons, c'est une réalité. Enfin, c'est une réalité. C'est pas que un cliché, en l'occurrence. C'est vrai, et les expériences, et des expériences d'ailleurs scientifiques qui le montrent, des études qui le prouvent, les filles et les femmes ont tendance à moins avoir confiance en elles que les garçons. C'est pas une généralité, on s'entend bien. C'est pas dire que les garçons ont tous confiance en eux. Mais en moyenne, les filles ont moins confiance en elles que les garçons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être plus d'autocensure, et notamment en matière d'orientation. Donc aller vers là où on les attend. Ça, c'est une deuxième caractéristique des filles, c'est qu'elles vont là où on les attend. Là où leurs parents portera un regard sur elles plus attentif et bienveillant, là où la société les attend. Ce qui sera beaucoup moins le cas d'un garçon. Il y a une expérience qui a été faite, que je raconte souvent, je ne sais pas la réalité scientifique, mais j'y crois énormément, qui a été faite sur des petits garçons de 6 ou 7 ans et des petites filles, 6 ou 7 ans, même âge, et on les met devant une caméra et on leur fait manger un yaourt salé. Mais ils ne le savent pas. Vous avez peut-être vu ça. Un yaourt salé, ils ne le savent pas. Donc on leur fait manger un yaourt devant la caméra et on leur demande, aux garçons et aux filles, de dire « c'est bon » et de faire la publicité du yaourt. Et donc, vous voyez un petit garçon, tous les petits garçons attaquent le yaourt. Moi, j'ai une première cuillerée. C'est dégoûtant. Devant la caméra, pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et vous voyez les petites filles arriver. Et c'est impressionnant. Hein, toutes les unes après les autres, elles mangent. Elles font quand même une petite... parce qu'il est très salé, quand même, le yaourt. Et elles disent, c'est bon. Et c'est hallucinant de voir ça. Donc c'est, je ne sais pas quelle est la véracité scientifique de cette expérience, mais je trouve ça extrêmement caractéristique de ce qu'on attend des filles par rapport aux garçons dans notre société. Et donc je pense que la confiance en soi, l'importance de ces soft skills, compétences de croire en soi, de gérer son stress, de gérer ses émotions, ces compétences-là sont très importantes à ancrer pour les jeunes filles. Et c'est quelque chose... Pour les garçons aussi, bien sûr, hein, mais pour les jeunes filles, pour ce qu'on vient de dire. Et c'est quelque chose que le système éducatif, aujourd'hui, ne fait pas suffisamment. On apprend au contraire à bachoter, à apprendre par cœur. On n'apprend pas suffisamment à prendre confiance en soi. Et pour les filles, c'est particulièrement dommage. Et ça, c'est un combat sur lequel nous, en tant qu'acteurs publics, on peut agir. On peut agir sur l'orientation. Tous les moyens sont bons. Elle bouge, en fait partie. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce domaine. Nos conseillers d'orientation, nous, collectivités, pour favoriser et sensibiliser les filles et les garçons à cela. Je crois aussi beaucoup au rôle modèle. C'est pour ça que ce qu'on fait ce matin, ce que vous êtes, mademoiselle, ce que nous pouvons être chacune dans nos filières est très important, et que le programme Femmes des Hauts-de-Seine a vocation à offrir des modèles de réussite. Demain, on remet un trophée à une vingtaine de jeunes femmes du département qui ont des réussites exceptionnelles dans leur domaine. Ce côté rôle modèle est très important. Et en en parlant avec Christelle, on s'est dit, mais en fait, on pourrait aussi faire pour les garçons. Pourquoi valoriser une jeune fille qui a fait Polytechnique, qui a monté sa start-up, et puis pas un garçon ? Justement pour ce même sujet de l'exemplarité et de lever les freins et l'autocensure des jeunes filles qui ont besoin de se trouver des modèles d'identification différents, là où les garçons en ont probablement moins besoin parce qu'ils ont cette assurance donnée par la société, hein, davantage. Je pourrais continuer les différentes pistes, l'égalité professionnelle, on y travaille sur les agents du département, on y travaille dans nos entreprises. Il faut aussi qu'on mette en place des modes de garde alternatifs, davantage, qu'on permette justement aux femmes de lever cette charge mentale de la garde des enfants qui souvent leur incombe. Heureusement, le dispositif législatif et toutes les évolutions des dernières années en France permettent, avec les différents congés parentaux, de lever un peu cette difficulté-là. Mais là aussi, en tant que collectivité, on peut continuer d'agir. Et puis, je pourrais énumérer ce type de dispositif que nous pouvons mettre en place. Je ne vais pas le faire parce que je pense que vous connaissez bien cela. Je voudrais juste mettre l'accent sur encore deux ou trois points importants. Le premier, c'est que, ça c'est une conviction, ça a été dit je crois plus tôt, attention au modèle coercitif, attention à la discrimination positive. Il faut en user, je crois que vous l'avez dit, et on peut partager nombreuses cela. Il faut le faire. C'est parfois utile pour lever des barrières qu'on n'arrivera pas à lever avant des dizaines et des dizaines d'années autrement. Mais quand on peut faire autrement, il faut le faire pour cette question de la légitimité et la confiance en nous-mêmes. Moi, je suis issue de la discrimination positive. Je ne serais pas devant vous s'il n'y avait pas eu à un moment donné une réforme démocratique, une réforme qui concerne les élections, qui dit que dans les conseils départementaux, maintenant, il faut un binôme homme-femme, un binôme homme-femme pour siéger. Donc on est complètement à 50% et à parité à cause d'une mesure de discrimination positive. Moi, étant élue de l'opposition à Nanterre, ville dans laquelle je n'avais aucune chance d'être élue, difficilement, ça m'a permis de pouvoir être ici en binôme avec le maire de Suresnes. Peu importe. Le point, c'est que à la fois, c'est utile. Et en même temps, pour nous, les femmes, sinon on aurait beaucoup moins de femmes en politique. Et en même temps, je ne l'ai pas forcément toujours très bien vécu. Il y a un sujet de légitimité. À quel point on est légitime, à quel point ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devrait être là devant vous. Ça, c'est compliqué à vivre en tant que femme. Donc faisons-le, parce que je pense que typiquement en politique, on peut mettre des décennies avant d'arriver à quoi que ce soit, mais pas partout. Et quand on peut faire autrement, c'est aussi très important de se donner les moyens par l'exemplarité, par nos discours, par l'action préventive et éducative de faire autrement. Donc ça, c'était un point que je voulais soulever, ne pas être coercitif trop souvent et ne pas être non plus contre-productif dans les discours qu'on tient. Et là, on a un rôle à jouer en tant que femme dans nos discours dits féministes, à ne pas tomber dans des extrêmes caricaturaux et qui font peur à tout le monde, y compris parfois à des femmes, et puis se laisser un peu de liberté aussi parfois. On est dans les clichés, c'est pas si dramatique sur certaines remarques. Comme tout le monde, on a des réflexions sexistes sur les blondes ou la conduite au volant. Bon, il y a peut-être des choses qui sont plus dramatiques dans la vie que ça. Je tenais à le dire. L'important, c'est qu'on le sache. L'important, c'est que la personne qui fait ces remarques sache dans quelles limites il peut la faire ou pas, mais relativisons juste un petit peu les choses et faisons attention aux discours trop militants qui, à mon avis, desservent la cause et nous font passer pour des victimes. Et je voudrais arriver à la conclusion en mettant en perspective ce que disait Simone Veil et ce qui a fait, je pense, le fil rouge de son combat. On n'est pas des victimes. Elle le disait en tant que juive en parlant de l'Holocauste, elle le disait en tant que femme sur les combats qu'elle a pu mener. Nous ne sommes pas des victimes. Ne nous positionnons jamais comme étant des victimes. Je pense que c'est l'une des clés si on veut s'accomplir et être respecté à notre juste niveau. Ne nous positionnons pas comme des victimes. Des victimes, il y en a des vraies et vous êtes il y a des responsables d'associations qui luttent et qui s'occupent de femmes victimes de violences. Elles sont des victimes. Et elles s'en sortiront le jour où on les sortira de cette position de victime. Mais pour celles qui n'en sont pas vraiment, ne portons pas ce discours victimaire qui dessert la cause des femmes. En conclusion, il y a mille choses à dire. Je voudrais donner peut-être nous donner rendez-vous et de se dire que Karine, l'un des prochains EAK que nous pourrions organiser ensemble, sera peut-être sur le sujet de la mixité des métiers. Des métiers de demain. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Je pense que la réflexion peut être très longue, très profonde, très débattue sur le sujet des métiers de demain, et que ça nous ramène à notre rôle d'acteur public, qui est comment on supprime toutes les barrières à l'entrée, comment on redonne à chacun la liberté de choisir sa vie, de choisir ce qu'on veut être. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on vienne d'une catégorie sociale moins favorisée, défavorisée de certains quartiers ou d'autres, de la campagne ou de la ville, d'où qu'on vienne. Je crois que c'est ce qui résume notre combat, celui-là comme beaucoup d'autres. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de supprimer toutes les barrières, les plafonds qui nous censurent, et comment est-ce qu'on peut rendre à chacun la liberté de choisir sa vie. C'est peut-être ce qui nous réunit ce matin et ce qui nous réunira sur d'autres sujets peut-être l'année prochaine. Merci à vous, en tout cas, pour cette matinée.
Alors, peut-être un petit temps quand même de réflexion, partage. J'ai demandé à Laetitia, Camille de venir s'asseoir au milieu. Nous avons encore un petit peu de temps avant la fin de nos travaux. Des commentaires, des réflexions. Oui.
Merci. Bonjour, Béatrice Bioko. Je suis fonctionnaire à la DPPE. Mais je suis aussi maire d'un ado qui me cherche aussi beaucoup, et puis présidente d'association, et puis investie dans une ludothèque, un théâtre, etc. Et moi, la question qui me taraude en ce moment, c'est la fracture entre les femmes. On a vu deux parcours brillants, je suis admirative d'ailleurs de ce qu'elles ont fait. Mais je me disais en même temps, quand on n'est pas dans un environnement où ses parents sont ingénieurs, enseignants, etc., et qui poussent justement et qui ouvrent les portes et les voies, quand on n'est pas dans ce milieu-là, eh bien, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que les jeunes femmes puissent, elles, se mettre en position de se dire « moi, je peux accéder à ça aussi ». Et en ce moment, j'ai le sentiment, avec toutes mes casquettes, en essayant un petit peu de faire bouger les choses, et puis surtout, il y a quelque chose qui m'a énormément choquée dernièrement, c'est la parole de femmes victimes, de ces actrices victimes, et de ce que j'ai lu et entendu de la part d'autres femmes. Et ça, ça m'a choquée. Et je me suis posé la question de savoir... Je pense que la situation des femmes, oui, elle s'améliore, mais elle s'améliore peut-être plus vite pour les femmes de certains milieux que pour d'autres. Et ce que je perçois, peut-être à tort, c'est la fracture entre nous, en fait. C'est-à-dire celles pour qui ça avance, et on en fait partie, et celles pour qui ça n'avance pas ou pas aussi vite. Et voilà. Et comment, en tant qu'association, comment, en tant que collectivité, etc., qu'est-ce qu'on met en œuvre ? Comment on va dans ces quartiers, parce que c'est souvent... Moi, je suis dans une ville où il y a 40% de logements sociaux. Pour autant, il fait très bon y vivre. Mais je vois bien autour de moi, moi qui vis dans ce quartier-là, je vois bien autour de moi qu'il y a une scission et qu'au bout d'un moment, on se comprend difficilement. Et ça me préoccupe, cette fracture entre les femmes et les fractures sociétales en général.
Merci beaucoup. D'autres... Oui ?
Par rapport à ce que vous dites, justement, le département est en train de réfléchir, hein, et Christelle en parlera bien mieux que moi, mais à des sujets autour du mentorat ou des choses comme ça qui permettent justement d'accompagner des jeunes gens, des jeunes femmes ou jeunes garçons, hein, qui sont issus des quartiers. Et ça peut être des pistes, par exemple.
Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Fatima Abderrebi, intervenante d'action sociale, référente de la prostitution de mineurs. Et j'ai travaillé donc longtemps dans le social, effectivement. Alors, je dois être un peu en décalé parce que... Alors, merci déjà pour toutes vos interventions. Vraiment, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Alors, j'ai commencé par toutes et tous pour rebondir sur ce que vous avez dit, madame, donc d'essayer de faire autrement, sans forcément tomber dans le radicalisme. Mais commençons déjà par des petits détails comme cela, où je nous mets en avant aussi. Et j'aimerais déjà remercier tout le monde, vraiment. Je devais être décalée, disons, parce qu'en fait, autant je me reconnais professionnellement parlant en ayant accompagné des jeunes filles qui voulaient effectivement s'orienter dans des métiers qu'on dit plus pour hommes. Mais moi, je n'ai pas vécu ça, au contraire. On m'a vraiment, oui, essayé de me pousser vers des métiers de filles, dans la gestion, la comptabilité. Et pour autant, j'ai choisi un métier d'homme au début. J'ai choisi des sports de garçons aussi. Enfin, vraiment, tout en décalé dans ma jeunesse. Donc, j'ai fait du rugby, du football. J'ai choisi un métier où j'ai travaillé en carcéral, en milieu pénitentiaire. Donc, vraiment, décalage total. Jusqu'à, effectivement, me perfectionner dans la prostitution des mineurs, puisque, pour le coup, c'était un sujet qui m'intéressait et que je voulais absolument combattre cela. Donc, du coup, je me dis aujourd'hui, comment peut-on commencer ? Alors, je voulais partager une idée avec vous, en commençant, effectivement, par se dire comment on peut changer. Et en vous écoutant, je me dis, on connaît tous autour de nous et nous-mêmes. On a donné naissance à des enfants. Donc, et de se dire qu'on connaît forcément des gens qui donnent naissance. Donc, en allant voir cette dame qui a donné naissance à la maternité, et ben, que ce soit une fille ou un garçon, en emmenant un cadeau qui est décalé aussi. Voilà. De ne pas emmener du rose parce que c'est une petite fille, de ne pas emmener du bleu parce que c'est un petit garçon. Donc, de commencer là-dedans pour changer un petit peu la donne.
Merci pour l'idée. D'autres sujets, oui.
Émilie Choual, donc la directrice de la FED, femmes victimes des violences conjugales des Hauts-de-Seine. Je revenais un petit peu sur les métiers de demain qui seront donc les métiers de soignants et d'accompagnement. Et vous disiez donc qu'il fallait recruter des soignants, des personnes auprès pour accompagner, etc. Actuellement, en tout cas, tout ce qui est mis en place, ça a l'air d'être assez un échec, puisque les hôpitaux n'arrivent pas à recruter malgré des campagnes de recrutement massives. Les assistants sociaux, les personnes qui accompagnent la petite enfance, toutes ces institutions sont de plus en plus en difficulté pour recruter. Donc, moi, j'entends bien. Mais pour l'instant, c'est vrai que la solution, on a l'impression de ne pas en voir. Donc, ce n'est pas du tout une question, ni une, peut-être, enfin, en tout cas, pour y avoir quand même pas mal réfléchi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un tunnel et dans un tunnel sans fond. Qu'allons-nous faire ? C'est ça ma question par rapport à ce challenge en fait de demain, parce que comme vous disiez, 1 sur 3 allait être aidant en 2040. Donc oui, on peut effectivement répartir le temps de travail de chacun pour devenir aidant, mais aider, c'est pas simple du tout. Ça fait appel à quand même des domaines de complexité, accompagner en fin de vie. L'accompagnement en fin de vie, ça ne s'apprend pas tout simplement parce que son proche est en train de mourir devant soi. C'est une question en fait de qualité humaine, de ressources humaines, de recherche, d'aller puiser au fond de soi-même des capacités que tout le monde n'aura pas. Donc en fait, on va être confronté aussi à une violence de l'aide, tout simplement puisque ça se prépare, ça s'apprend, ça se développe et surtout... Ça demande de l'expérience. Donc, toutes ces petites questions-là qui me restent encore, je suis toujours en recherche de solutions. Et si on peut faire avancer le sujet, on serait ravis.
Alors, je me permets juste de vous indiquer qu'on a vraiment, on consacre beaucoup aussi de sujets à l'impact du vieillissement et justement à ce changement de pic. Et ce renversement hein, qu'on a abordé dans plusieurs entretiens Albert Kahn. Donc ça, je vous invite, si ça vous intéresse, bien évidemment, parce que en fait, la question est bien d'anticiper une forme de renversement du nombre d'aidants inférieur au nombre d'aidés, etc. Donc juste pour vous rassurer que, en tout cas, on y travaille. Ça, c'est au niveau du département des Hauts-de-Seine. La deuxième chose, et avant de vous laisser la parole, c'est que j'aimerais peut-être aussi revenir sur un signe fort, un signal faible fort, comme diraient les prospectivistes, qui est remonté lors de nos focus group, parce que on n'en a pas tellement parlé, on a parlé des Curious Labs, mais on a fait tout un travail de focus group à partir de témoignages et de projections des jeunes filles du rêve à la réalisation d'elles-mêmes. et peut-être dire quand même des éléments qui ont été très intéressants à ce niveau-là, c'est que certes, de manière très majoritaire, elles ne se retrouvaient pas dans des métiers en effet scientifiques, hein, donc ça corrobore complètement voilà, toutes les statistiques qui existent, voilà, qu'Élise Catala a montré, et au-delà de Via Voice, en fait, de toutes les statistiques qui existent, etc. Mais par contre, ce qui nous a toutes marquées, et on est un certain nombre hein, des équipes qui avons animé cet atelier, de montrer à quel point elles se font une projection d'elles-mêmes très forte. Et c'était des jeunes filles, d'ailleurs, pour la plupart d'agents du département, donc plutôt voilà, ni extrêmement favorisées, ni totalement défavorisées, et qu'elles avaient vraiment une vision très forte de ce à quoi elles aspiraient, de leurs envies. Elles avaient également conscience de la difficulté probable que ça serait peut-être pas un long fleuve tranquille, mais qu'elles avaient les ressources en elles-mêmes pour y arriver. Donc je tiens à, enfin je me permets juste cette incidence parce que bon déjà c'est un travail qui sera publié dans le cahier qui a mobilisé quand même un certain nombre de jeunes filles des collèges, qui a mobilisé aussi les équipes qui ont en interne qui ont animé conçu cet atelier. Et surtout, c'est un message d'espoir par rapport à toutes ces... Bien sûr, voilà, le chemin est encore long, etc. Mais c'est un chemin d'espoir de voir que si les conditions sont réunies, la volonté et la vision est là. Voilà. Donc moi, je tenais juste à partager ce retour voilà, d'expérience. Et mesdames, je vous laisse la parole peut-être pour quelques mots de retour sur les commentaires et puis on en restera là de peut-être quelques mots de conclusion.
J'avais envie de réagir à ce que vous venez de dire sur les deux points, sur l'accompagnement en fin de vie et le fait que quand on privatise complètement le soin, on isole les individus qui doivent le prodiguer et on arrive à quelque chose qui n'est pas tenable, soutenable, pas seulement parce qu'il n'y a pas de compétences, mais simplement parce que c'est insoutenable, en fait. Et qu'on dit, on a coutume de dire qu'il faut un village pour élever un enfant. Et en fait, il faudrait aussi un village pour accompagner quelqu'un en fin de vie. Et dans ce village, il y a une partie d'institutions qui sont collectives et qu'il s'agit d'assurer. Et évidemment, il faut accepter aussi d'en payer le prix. Et ça, c'est quelque chose qui va être un gros sujet. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver seuls avec... pas de place dans le centre de soins palliatifs et on est face à la souffrance et on ne sait pas quoi faire avec la morphine. Bon, baf. Oui, là, ce n'est pas une solution, ça. Et puis la deuxième chose sur le recrutement, je partage le constat, le recrutement aujourd'hui pour beaucoup des essentiels et notamment des jeunes, il est extrêmement compliqué. C'est pas parce que les jeunes ne veulent pas le faire. Quand on parle de crise de vocation, il n'y a pas de crise de vocation. Déjà, l'idée même de la vocation, pardon, mais elle est très douteuse. C'est parce que, par exemple, un des grands freins, c'est la question du logement. Quand vous débutez aujourd'hui dans votre département, dans le social ou infirmière, et si vous êtes seul et que vous n'êtes pas déjà logé, en gros, je pense pas prendre de risque en me disant que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de se loger, c'est pas possible. Donc là, c'est très concret, hein, on est dans quelque chose de très concret et où il faut mettre en lien la politique, enfin tout ce qui concerne les politiques publiques de travail peuvent, liées à l'emploi et au travail ne peuvent pas être déconnectées de la politique du logement, de la question des logements sociaux, etc. Donc là, on a vraiment un sujet qui est quand même aussi un sujet de politique publique et c'est une partie de, enfin c'est une des clés en fait très concrètes pour recruter. À une époque, un instituteur avait un logement de fonction. Aujourd'hui, on considère ça comme complètement délirant. Mais un jour, peut-être que pour recruter des... On va bien le faire pour les JO, hein, pour les personnels de sécurité, ils vont être logés. Bah, il va falloir qu'on y réfléchisse pour d'autres métiers aussi. On les loge, les gens. Et une fois qu'on les loge... Alors, c'est un peu la même chose que de les payer plus, mais pas complètement. Parce que c'est aussi des questions d'alignement dans des politiques publiques territoriales. Et ça, c'est pas la même chose que de les payer l'équivalent du coût d'un loyer sur le marché privé. C'est pas non plus la même chose. Mais bon, sinon, l'autre solution, c'est en effet de revaloriser les métiers et de payer beaucoup plus. Hein.
Oui, merci. Alors, vous avez soulevé des questions qui dépasse notre sujet de ce matin, notamment celle du service public parce que, ou de l'intérêt général, du service de l'intérêt général, qui n'est pas d'ailleurs que service public, qui est évidemment une question majeure. Et puis, madame, la question aujourd'hui des fractures qui existent dans notre pays, notamment des fractures sociales. Donc là, on dépasse le cadre de notre sujet, mais pour raccrocher, il y a quand même un point, deux points que j'aimerais souligner. Le premier, c'est qu'on a parlé de cette, ce qu'elle est de façon prospective et relativement certaine, nous arriver dans les 20 prochaines années, pour rester dans des horizons proches, avec le vieillissement de la population. Avec ce rôle des aidants qui certainement sera tel que vous l'avez dit, donc de plus en plus prégnant. Mais pour ça, là, on a nos lunettes d'occidentaux, même d'européens. Si on prend un tout petit peu de recul et qu'on voit ce qui se passe dans le monde, il va aussi falloir qu'on reste très compétitif et qu'on produise beaucoup de richesses pour pouvoir financer et trouver de ressources pour pouvoir assumer toutes ces évolutions-là. Et ça me ramène à la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, qui est pourquoi on a quand même beaucoup fait de focus ce matin sur le sujet des sciences, des métiers de l'ingénierie, des métiers du numérique, des métiers industriels également. C'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers-là, et de façon très significative, entre 15 et 20%, voire beaucoup moins d'ailleurs selon certains métiers. C'est parce que ce sont ces métiers-là ou qui seront minoritaires en termes de nombre, hein, on a bien entendu, et vous avez raison de rappeler ça, mais qui seront ceux où on va produire le monde de demain et créer le monde de demain, les richesses du monde de demain. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce focus ce matin, c'est que sans ces métiers-là, sans cette féminisation de ces métiers-là, on sera tout simplement, si on parle juste de marché d'économie, moins performant que les autres. Donc faut revenir à la base, on sera moins performant. Je cherchais quelques exemples à vous donner, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et que je ne suis pas scientifique, les scientifiques pourront illustrer ça beaucoup mieux que moi, mais quand par exemple en médecine prédictive, vous travaillez sur l'IA aujourd'hui en médecine prédictive, ce sont donc plutôt des hommes, même si la médecine est beaucoup plus féminisée, mais sur la recherche technologique, on parle d'hommes. Ces métiers-là, si vous ne prenez pas en compte des données, qui sont des données de corps féminin dans les outils d'IA, vous allez passer à côté d'une partie des problèmes et des diagnostics. Et ça, ce sont des problèmes qui se posent, j'en parle très mal, mais qui sont des réalités pour, par exemple, l'IA dans la médecine. Et ces sujets-là, vous les avez partout. Vous ne pouvez pas créer les outils de mobilité de demain, par exemple, sans considérer la vie quotidienne d'une femme, si vous ne le faites qu'à partir de données qui sont majoritairement biaisées par un regard masculin. Ça se pose sur le plan ethnique aussi. Ce sujet, si vous ne prenez pas en compte la population d'origine plutôt africaine, par exemple, ou asiatique, dans les données, si vous ne retrouvez pas ces données-là, nos outils ne marcheront pas. Ça s'est posé, ça s'est déjà vu. Tous ces biais sont du quotidien de la science d'aujourd'hui. Donc il faut féminiser, comme il faut mettre de la diversité d'une façon générale dans tous ces métiers de demain, parce qu'ils font notre quotidien. On peut pas dire qu'aujourd'hui un téléphone portable ou un ordinateur ou un réseau social ce soit pas de notre quotidien, c'est des dizaines de fois par jour qu'on est là-dessus. Donc si ces outils-là ne sont pas conçus par nous, femmes, pardon messieurs, aussi et comme par des populations diverses, ça ne pourra pas marcher. Voilà pourquoi on a fait ce focus-là aussi ce matin. Et juste un deuxième point pour votre question sur les fractures sociales. Et évidemment, ce que je voulais dire m'échappe, donc j'en suis absolument... Oui, c'est ça, si, très important, c'est sur les modèles de réussite qu'on a dans notre pays, qui rejoint aussi nos échanges. C'est-à-dire qu'on a des modèles de réussite qui sont... Voilà, la science, c'est l'excellence. Polytechnique, c'est l'excellence, et c'est vrai. Mais à un moment donné, à quel moment on se dit qu'on peut être sportif et que c'est une forme d'excellence ? Je ne parle pas du champion olympique. Je parle de l'élève aujourd'hui qui est en sport-études, qui fait du... J'en connais plein, je travaille là-dedans, qui font du foot, du tennis ou du basket à bon niveau. Ils ne sont pas champions olympiques, hein, mais ils font un bon niveau. Ils sont excellents dans leur discipline. Ils ont beaucoup de mal à suivre un cursus
éducatif normal. C'est très compliqué en France. Être un artiste, être un musicien, être manuel, on parlait du tricot tout à l'heure, tout ça est dévalorisé, ou en tout cas n'est pas valorisé comme l'est l'élite académique française. Et donc on est dans un modèle, et j'en ai fait partie, donc voilà, on est dans un modèle en pyramide où vous avez 4000, 5000 places dans les très grandes écoles françaises. Et si vous n'êtes pas là-dedans, bon, vous pouvez être un peu en dessous. Eh ben, vous ne faites pas partie de l'élite. Et ça, c'est une vision très franco-française de la réussite qui pénalise donc sur beaucoup de domaines les filles et les femmes, et sur lesquels il faut aussi qu'on travaille. Ces modèles de réussite qui font que quand on vient d'un quartier et qu'on a un parcours dans l'entrepreneuriat, que vous avez monté 10 boîtes, que vous en êtes sorti par vous-même, que vous faites vivre votre famille, ou que vous êtes plombier ou électricien, que vous gagnez 10 fois plus d'argent qu'un cadre supérieur aujourd'hui, souvent, et ben cette réussite-là n'est pas valorisée suffisamment. Ça, je pense que c'est une des clés pour réduire ces fractures-là.
Très envie d'ajouter quelque chose, parce que j'aime beaucoup la remarque finale de Camille là, sur le modèle de la réussite. C'est que c'est aussi un modèle de la réussite à la française où tout se joue à 20 ans. Et ça, c'est très différent, parce que les Allemands aussi, ils sont élitistes. Il faut être Herr Doktor ou Frau Doktor. Donc c'est pareil, sauf que pour devenir docteur, ça, on attend quand même 30 ans, 32, 33, parfois 35, 36 ans, alors que le modèle des classes préparatoires avec le concours au bout de 2 ans de préparation où on a bûché, à 20 ans, soit on peut ne pas aussi avoir la maturité, ne jamais on en avoir entendu parler, et si on en entend parler à 30 ans, bah trop tard, désolé. Et ça, c'est vraiment effectivement un modèle qui devrait être diversifié avec des passerelles, pas seulement passerelles scolaires, mais des passerelles vers la réussite à tout âge. Et là, on a beaucoup à apprendre peut-être d'autres pays, parce qu'on est ultra jeuniste en France. Hein. À 20 ans, c'est foutu. Et il y a encore des gens, ils n'ont pas eu Polytechnique. 20 ans plus tard, ils sont là, c'est le regret de leur vie. On se dit, c'est quand même, c'est délirant, quoi. Ou inversement, ils mettent encore X 1968, 50 ans plus tard. Et on se dit, bon, bah, super, t'as été fort quand t'avais 20 ans, il y a 50 ans, maintenant, peut-être, qu'est-ce que t'as fait depuis, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu, c'est trop limité comme modèle de la réussite, donc je rejoins tout à fait ce que vous dites.
Merci beaucoup, on peut vous applaudir encore une fois. Merci pour la richesse, la qualité de vos interventions. Merci mesdames intervenantes, merci public, merci Camille de votre confiance, merci Isabelle, Annie, Sophie, etc. qui ont aidé à programmer cette matinée. Alors, avant d'aller au pot, 2 dates. La prochaine rencontre entretien Albert Kahn aura lieu le 16 mai prochain, ici même, par-delà nature-culture, les bienfaits de la nature en ville. Nous aurons une journée, parce que ça sera plus qu'une matinée. Nous prolongerons l'après-midi par la visite de l'exposition Nature Vivante avec le chef jardinier du musée Albert Kahn et également la commissaire Luce Lebart en charge de l'exposition Nature Vivante. Nous aurons une journée incroyable. Donc, les bienfaits de la nature en ville, par-delà nature culture, le 16 mai. Et puis, le 11 juin, nous allons travailler sur la question des stéréotypes, à commencer par 3 stéréotypes qu'on va travailler en particulier. Donc là, c'est un EAK interne, c'est pour les agents et les élus. Donc, on va travailler sur, arriver à déjà décrypter nos propres préjugés, discriminations, enfin, biais. Et puis, essayer aussi de travailler sur nous-mêmes pour essayer de les dépasser. Et donc, on abordera notamment la question du sexisme, mais aussi la question de l'agisme et de l'apparence physique. Voilà pour le programme à venir. Encore merci à tous et à toutes. Merci.